Bienvenue à La Carrière Autrement. On est Éliane et Charlotte, deux conseillères d'orientation. À travers notre podcast, on jase de vie professionnelle au sens large, tout en abordant les enjeux vécus par les travailleurs d'aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on reçoit Léa et on parle d'anxiété de performance. Donc on a parlé de comment ça se manifestait pour elle à travers sa vie scolaire, sa vie professionnelle. Puis on a aussi parlé de stratégies variées là, qu'on peut employer quand on ressent ce type d'anxiété. Fait que c'est bien important pour nous de préciser que nous ne sommes pas des expertes dans le domaine. On voulait juste un peu partager un exemple de vécu par rapport à l'anxiété de performance. Donc, prenez ce qui vous plaît, ce qui vous rejoint, puis n'hésitez pas là, à nous donner encore une fois vos feedbacks. Merci. Bonne écoute.
Tu sais, ça a commencé quand j'avais 12 ans, dans le fond, puis j'ai juste compris c'était quoi quand je suis arrivée à l'université.
C'est fou, hein?
Ça a expliqué tellement de choses sur mes comportements, puis toute l'anxiété que je vivais, là.
Ouais.
C'est fou, là.
Fait que de comprendre le concept, puis ouais, c'est ça, puis après ça, d'être...
Ouais.
What?
Ouais.
Ouais.
Puis tu sais, on dirait que des fois, on a comme le réflexe de dire comme que c'est associé, par exemple, avec le milieu scolaire.
Ouais.
Mais l'anxiété de performance, ça se manifeste dans plein d'aspects de ta vie, là. Tu peux vouloir performer dans un rôle que t'as, par exemple, d'amie, d'amoureuse. Ouais. Tu peux vouloir performer dans plein de trucs.
Comme, tu sais, vouloir performer ton repos, là.
Oui.
Moi, des fois, je veux performer mon sommeil, là. Tu sais, c'est comme...
Oui! Ouais.
C'est tellement intense.
C'est fou de voir à quel point c'est multifactoriel.
Ouais.
Peut-être on commencerait par te poser la question, tu sais, toi, dans tes propres mots, comment tu la définirais, l'anxiété de performance?
Ben, l'anxiété de performance... C'est une anxiété qui est vraiment comme spécifique à un contexte ou à une situation où est-ce que mes compétences, mes savoirs vont être comme évalués par quelqu'un. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait l'aspect d'évaluation pour que je ressente cette anxiété-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans un contexte où est-ce que ma performance va être jugée par quelqu'un. Puis ça peut être moi, là, la personne, ou ça peut être, par exemple, à l'école, ou dans un milieu de travail par, c'est ton collègue ou ton patron. Mais c'est là que, c'est ça, mes compétences vont être comme scrutées.
Mm-hmm.
Puis après ça, je vais avoir comme une rétroaction de la personne. C'est vraiment plus dans des contextes comme spécifiques de performance, dans le fond. Là. Mm-hmm. C'est comme ça que moi, je le vois. Puis, tu sais, cette anxiété-là, ça va amener une... des symptômes autant psychologiques que physiques ou physiologiques, là. Puis ça, on pourra peut-être en reparler tantôt, là, mais physique, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai découvert que je faisais de l'anxiété, parce que ça se manifestait tellement fort physiquement, là.
Mm-hmm.
C'est complètement fou, là, comment que l'anxiété, ça peut te faire sentir vraiment mal, là. Mais ouais, c'est comme ça que je décrirais, je pense, l'anxiété de performance. C'est vraiment spécifique à un contexte, là. D'évaluation. Il faut qu'il y ait une évaluation de mon côté.
Puis quand tu parles d'évaluation, tu parles-tu comme d'une évaluation formelle ou c'est plus un peu quand les autres sont dans une posture, ils peuvent juger de ta valeur ou de la personne que tu es?
Moi, de mon côté, c'est sûr que l'anxiété de performance, ça s'est beaucoup manifesté à l'école, comme milieu académique. C'est là que j'ai vécu mon anxiété de performance comme le plus fort, dans le fond, là. Très, très, très fort. Puis ça, c'est sûr que ça venait avec une évaluation plus formelle, donc un examen écrit, une présentation orale. Ça me rendait tellement anxieuse, tellement mal. Mais comme tu dis, tu sais, dans la deuxième partie, là, il y a aussi de façon moins formelle. Donc, par exemple, quand je suis au travail, puis... c'est que je veux démontrer, par exemple, à ma collègue que ça fait 20 ans qu'elle fait le poste que j'ai, que je suis capable d'apprendre vite, puis que c'est bon, qu'est-ce que je fais. Mais là, j'ai comme un petit sentiment là, de qu'il faut que je performe là, pour qu'elle trouve que je suis bonne, puis que j'apprends vite.
Ouais.
Ouais.
Puis je trouvais que c'était intéressant dans ce que tu disais de dire il y a une évaluation faite par quelqu'un, puis ce quelqu'un-là, ça peut être moi. Ça peut être interne, puis en même temps, je me dis. On n'est pas toujours les bons juges de nous-mêmes parce que des fois, on peut être dans l'exigence. Donc, j'imagine qu'il y a une partie de toi aussi que des fois, tu dis « OK, je m'en demande peut-être beaucoup aussi en ce moment. »
Oui, tellement, là. Puis, tu sais, je vous en parlais un peu tantôt, là, que justement, J'ai longtemps pensé que mon anxiété de performance, ça se manifestait juste à l'école. Fait que dans un cadre où est-ce qu'il y avait une évaluation, ou tu sais, ça peut être par exemple, quand je faisais des cours de sauvetage, puis il y avait l'examen à la fin, ben là, mon anxiété de performance allait vraiment ressortir, là. Mais je me rends compte que c'est aussi dans d'autres contextes, comme par exemple, tu sais, je me suis remis, c'est ça, comme à l'entraînement. Mm-hmm. Puis là, j'ai ma montre intelligente qui est avec moi. Puis là, je me mets, tu sais, c'est vraiment de façon inconsciente, mais je vais mettre des objectifs sur ma montre, puis je vais être un peu comme obsédée par ça pendant la journée, puis je dois absolument atteindre un tel nombre de pas, ou je dois absolument m'entraîner 4 fois pendant la semaine pour atteindre un nombre de minutes d'activité physique dans ma semaine. Il faut que je performe, il faut que j'aille au gym, puis que...
Ouais.
C'est ça, puis... Après ça, j'ai comme réalisé que ben, finalement, c'était moi qui se mettais cette pression-là de performance. Il y a personne d'autre autour de moi qui jugeait là, ma...
Qui évalue ça,
non,
en fait.
C'est là. Ça vient de moi. Puis ça, je l'ai compris vraiment plus en vieillissant parce que avant, c'est ça, je pensais que c'était strictement à l'école, mais en vieillissant, je me rends compte que c'est dans d'autres aspects de ma vie aussi que je vis ça. Là.
Puis tu parlais justement de l'école, puis que c'est un peu là qui a été la source de ben, tes prises de conscience par rapport à ça, mais que tu as commencé à ressentir ça. Fait que peux-tu nous parler un petit peu plus de comment ça s'est passé, ton parcours scolaire avec ça?
Ouais. Ben, dans le fond, moi, comment je le vois, mon parcours scolaire, c'est vraiment comme des hauts et des bas. Puis comme une relation amour-haine. Puis un peu aussi comme une relation toxique. C'est ça que je me rends compte maintenant, c'est que j'entretenais vraiment une relation très toxique avec l'école. Puis autant que j'adorais aller à l'école, j'adore la structure que ça apporte, puis que, tu sais, je me sens comme en confiance quand je suis là, mais autant que c'est là que j'ai vécu mes plus gros bas, là, que j'ai vécu mes plus grosses crises d'anxiété, puis c'est là que je me suis sentie plus mal dans ma vie. Mais autant que quand j'allais là, ben j'aimais apprendre, puis j'aimais la structure, mais ça me rendait comme hyper hyper anxieuse. Donc c'est ça, c'était comme une relation toxique que tu vas toujours retourner vers l'école, même si tu sais que ça t'apporte comme beaucoup d'anxiété, tu sais. Puis tu sais, qu'est-ce que je me souviens de... Qu'est-ce qui a marqué, en fait, mon parcours scolaire? Tu sais, je performais bien. J'avais des bons résultats, des bonnes notes. Mais j'ai passé tellement d'heures à étudier, là. Comme, la préparation, c'est complètement fou, là, ce que je faisais, là. Comme, j'avais de la difficulté à faire autre chose pendant mes sessions que de juste étudier, là. Tu sais, je travaillais presque pas, j'étudiais tout le temps, tu sais, j'étais rendue à enregistrer mes notes de cours sur mon téléphone, puis je les réécoutais quand je m'en allais à l'université dans le train, là. Je les réécoutais, là. Fallait que ça soit ancré dans mon cerveau, là. Fallait que je réussisse mes examens, absolument. Fait que, ouais.
Fait que tu t'imposais une préparation qui était énorme, là, qui te consommait beaucoup de temps, puis tout ça. Puis, tu sais, je sors un peu du camp, mais je me demande un peu comme, tu sais, derrière cette crainte-là, tu sais, la peur... Tu l'identifies à quoi? Est-ce que c'est la peur de l'échec? C'est la peur... Je sais pas comment le nommer, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, vraiment. Puis ça a été difficile pour moi aussi d'identifier pourquoi que j'agissais de cette façon-là, parce que, tu sais, ça m'arrivait souvent que j'étudiais puis j'étais comme, OK, calme-toi un peu, là. Comme, t'es pas obligé d'avoir 90% dans tous tes cours, là. C'est pas grave, là. Tu peux lâcher prise, avoir 70% puis ça va être bien correct. Mais je pense que la peur de l'échec, c'était tellement grand... C'était vraiment comme...
Viscéral.
Oui, là, c'est ça, c'était une question de survie.
Ouais.
Puis le nombre de fois que c'est arrivé, surtout à l'université, que j'arrivais dans le cours, tu sais, le premier cours, tu fais, bon, on passe à travers le plan de cours, on voit les évaluations, puis je ressortais de là, puis je disais, non, c'est impossible que je réussisse ce cours-là. Impossible. Jamais je serais capable. C'est impossible que je me rende jusqu'à la dernière évaluation qu'on a vue. C'est... Non. C'est...
Ah ouais.
J'avais comme vraiment des idées aussi négatives.
Ouais, c'était comme ton discours interne, là.
Oui, c'est ça, il était vraiment fort, puis j'ai fait beaucoup de rumination aussi, là, donc, tu sais, de répéter toujours des idées négatives, des pensées négatives. Pour moi, c'était... J'avais tellement peur de l'échec, de devoir reprendre le cours puis me décevoir moi, décevoir les autres autour de moi, mais c'est juste moi qui se mettais cette pression-là, dans le fond.
Puis quand tu disais, ben là, fallait que tu aies des 90, c'est un peu... Est-ce que tu disais, comme, mettons, je vise 90%, d'un coup qu'il arrive quelque chose, puis que là, un autre examen, j'ai une moins bonne note, puis là, c'était comme un peu de la prévention.
Oui.
De se dire, ben si j'ai eu des bonnes notes dans tel travail, puis qu'il se passe quelque chose après, ben c'est un safety. Fait que là, c'est comme si... L'école te demande de performer à, c'est quoi, c'est 60-70% pour repasser, là?
Je pense que ça dépend des moments, mais à l'université, je pense que c'est 50-60%, là.
C'est ça, puis on trouve que, tu sais, comme ça t'impose cette règle-là de performance, mais toi, tu te mettais la barre à tellement 90 par safety, là.
Ouais, puis aussi, tu sais, mon anxiété de performance, ça s'est beaucoup manifestée quand que j'étais au cégep, puis quand que j'étais à l'université. Puis, tu sais, au cégep, c'est parce que je voulais rentrer dans un programme à l'université. Donc, je voulais absolument avoir des bonnes notes pour avoir une bonne cotère. Mm-hmm. Après ça, quand j'étais dans le bac, ben je voulais absolument avoir une bonne cote Z pour pouvoir rentrer à la maîtrise, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que je voulais autant performer, tu sais.
Il y avait toujours un objectif après à atteindre.
Oui, c'est ça.
Qui avait des exigences, tu sais.
Exact. Fait que j'étais jamais juste dans le moment présent, dans l'apprentissage, dans le lâcher prise. J'étais tout le temps dans... Ouais, mais t'sais, après, si je veux rentrer à la maîtrise, ben je veux avoir toutes mes portes ouvertes puis je veux avoir toutes les possibilités. Fait qu'il faut pas qu'il y ait d'échecs, il faut pas qu'il y ait de tâches à mon dossier, mais...
Ouais, il y avait beaucoup de « il faut ». Hein?
Ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais, puis c'était drainant, là, t'sais. Ça prend beaucoup de ton énergie, là.
Peut-être qu'on peut revenir, tu sais, comme là, on a comme embarqué dans le sujet de l'anxiété, mais juste pour les personnes qui nous écoutent, faire une petite nuance entre c'est quoi l'anxiété versus le stress?
Oui, tout à fait. Ben effectivement, des fois, c'est deux concepts qui peuvent être mélangés. Puis, il y a une excellente psychologue qui est Sonia Lupien, qui vulgarise beaucoup. Là, je te vois sourire, tu la connais.
Oui.
Qui vulgarise bien, en fait, les deux concepts. Puis, elle utilise la métaphore du mammouth. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, mais, tu sais, elle compare un peu le stress à un mammouth. T'sais, parce que quand on pense à la préhistoire, ben l'apparition de la peur puis du stress, c'est parce que l'humain devait faire face à des prédateurs, des mammouths. Puis le stress et l'anxiété, ça se différencierait par le fait que le mammouth, ben c'est normal que tu sois stressé quand il est présent devant toi, puis l'anxiété, c'est quand le mammouth, il est pas là. Donc tu anticipes le mammouth, tu penses au mammouth qui pourrait arriver, qu'est-ce que je ferais s'il arrive? Mais il n'est pas réellement là. Donc, tu sais, c'est vraiment tout ce qui est de dire le stress, c'est une réponse immédiate à un danger potentiel, tandis que l'anxiété, c'est... puis je veux bien m'exprimer à travers tout ça, mais tu sais, l'anxiété, c'est vraiment par rapport à l'anticipation, à la probabilité que quelque chose arrive, alors que c'est pas réellement tangible devant nous.
Je pense que c'est très bien...
vraiment. Ouais.
Oui.
Excuse-moi, je voulais juste rappeler aussi, tu sais, dans le fond, l'anxiété, il y a une fonction adaptative derrière tout ça aussi. Mais il y a la réalité du monde dans lequel on vit aussi qui fait en sorte qu'on a beaucoup de sources de stress qui peuvent se présenter en nous. Donc, tu sais, c'est de se rappeler que l'anxiété, elle est là, c'est un mécanisme à la base d'adaptabilité. Mais c'est ça, des fois, qui prend beaucoup de place puis qui vient affecter le fonctionnement de certaines personnes.
C'est ça, c'est une émotion aussi, c'est un ressenti, l'anxiété. Puis comme on le dit souvent, il n'y a pas comme une émotion qui n'est pas valide puis qui n'a pas raison d'être, parce que notre corps est là pour nous envoyer des signaux. Mais c'est plus qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion-là puis comment qu'on la gère qui va venir déterminer est-ce que ça va devenir... inconfortable, même jusqu'à affecter notre fonctionnel, notre capacité à bien vivre puis à bien faire ce qui est important pour nous dans la vie. Là.
C'est ça, tu sais, parce qu'il peut y avoir des comportements anxieux, mais tu sais, quand ça devient un trouble anxieux, c'est quand que ça l'amène une détresse significative selon le DSM ou que ça l'affecte grandement le fonctionnement de quelqu'un. Donc cette petite différence là, puis je trouve que ça serait intéressant, Léa, si tu voulais nous parler un petit peu de toi, comment ça se manifeste chez toi, ton anxiété de performance.
Ouais. Ça se manifeste de deux façons. Moi, je le divise comme en deux catégories, qui est physique et psychologique. Fait que c'est ça, comme je vous disais, moi, ça a commencé l'anxiété par des manifestations physiques. Fait que je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, là, parce que j'avais juste 12 ans, en fait, quand ça a commencé, là. Fait que, tu sais, j'avais des maux de cœur, tu sais, des nausées, puis ça allait même jusqu'à des vomissements. Puis ça, ça a duré vraiment longtemps. C'est ça, ce symptôme-là physique, là, ça me rendait vraiment malade, complètement, là. Fait que, ouais. Puis ça, ça engendre aussi comme une perte d'appétit. Puis aussi, je dormais vraiment mal. En fait, je me réveillais toujours vraiment tôt, vers comme 4 heures du matin. Puis là, ça commençait ma rumination, fait que mes idées, mes pensées négatives, ça m'empêchait de dormir. En plus, mes maux de cœur, vomissements. Là, quand t'arrives à l'école puis t'as pas beaucoup dormi, t'es malade, t'as pas faim, ben j'avais la difficulté à me concentrer dans les cours, beaucoup de fatigue, de maux de tête. J'avais aussi une perte de poids parce que ben, tu manges pas beaucoup. J'avais beaucoup de difficulté à manger parce que j'avais l'appétit complètement coupé, là. Fait que ça, je dirais que c'est comme les manifestations physiques. Puis, tu sais, c'est sûr que pendant mon secondaire, c'est là que ça a été le plus intense, là. Que j'étais souvent malade au point de pas aller à l'école, là. Surtout quand un examen arrivait. Je pouvais pas y aller, là. C'est ça. J'étais vraiment malade, puis je pouvais pas fonctionner puis y aller. Puis après, quand je suis arrivée au cégep, ça s'est calmé, ça arrivait moins souvent, ces épisodes-là. Mais j'avais toujours le mot de cœur qui restait. Toujours mal au cœur, un petit mal de cœur, là, qui était toujours présent. Puis après ça, à l'université, ben c'est complètement parti. Puis là, ça fait vraiment longtemps que ça m'est arrivé. Mais ça m'arrive encore de me réveiller tôt le matin, puis d'avoir la boule dans le ventre, là, puis le mal de cœur, là, qui est toujours présent. Fait que moi, c'était vraiment comme spécial la façon que ça se manifestait. C'était
dans ton corps que tu le ressentais beaucoup.
Ah ouais, dans tes tripes, là. Tu sais, là, comme dans le fond de ton ventre, là, je le ressentais tellement fort, là, que ça me rendait malade, là. Ouais, c'est comme tu disais tantôt, là, c'est par rapport à Sonia Lupien, comment qu'elle l'expliquait un peu, là, c'est quoi, tu sais, l'anxiété, là. C'est comme si mon corps, il voyait, là, que l'évaluation que j'allais avoir, ben c'était une menace pour ma survie, là. Fait que mon corps était en réaction, là, de survie. C'est complètement fou, là.
Puis tu disais aussi que il y avait le volet physique, mais qu'il y avait le volet comme plus au niveau des pensées psychologiques. Peux-tu nous dire un peu plus?
Ben c'est ça. J'avais beaucoup de rumination, comme je vous disais. Donc, j'ai l'impression que c'était très inconscient. J'avais de la difficulté à arrêter d'y penser, puis mon cerveau était jamais sur pause. C'était comme un petit hamster qui arrêtait pas toujours de me faire penser, là, à l'examen qui s'en vient, à l'évaluation, à la performance que je dois donner, puis ça l'arrêtait pas. Fait que ça, c'était difficile pour moi de mettre mon cerveau sur pause. Puis une autre manifestation aussi que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait, c'est l'évitement. Puis ça a pris du temps avant que je comprenne. C'était quoi de l'évitement, puis que j'en faisais, dans le fond, là.
Ouais. Fait que c'est quoi de l'évitement?
Ben, ça le dit un peu dans le mot, là, mais dans le fond, c'est que j'évitais les situations qui pouvaient être anxiogènes pour moi, pouvaient me créer de l'anxiété. Au début, comme je vous disais, je faisais ça de façon plus inconsciente. Je voyais, par exemple, l'examen qui s'en venait. Tu sais, au secondaire, c'était comme des périodes, là. Puis là, je voyais la période du cours de mathématiques qui s'en venait. Puis là, tout d'un coup, je commence à avoir un peu mal à la gorge, là. J'appelais ma mère. « Ah, maman, je commence à être malade. Je pense que je pourrais pas rester à l'école pour le reste de la journée. » Fait qu'elle dit « OK, ben retourne à la maison. » Fait que j'évitais la situation qui est stressante. Fait que je tombais quand même très souvent malade. Des fois, oui, parce que j'avais des maux de cœur, mais des fois, c'était moi qui trouvais une raison de manquer cet événement-là stressant. Fait que j'étais vraiment là, la reine de l'évitement. Là, j'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, tu sais, l'évitement, c'est un comportement qui est répertorié comme une réaction face à l'anxiété de performance. Parfois, la procrastination aussi, ça peut en faire partie. Puis c'est comme si, là, si je le vulgarise, j'ai l'impression que c'est comme si on se dit, tant qu'à pas le faire parfaitement, vaut mieux pas le faire du tout. Puis c'est des fois, tu sais, ça amène un peu comme à se mettre sur pause plutôt que de se lancer. Donc, tu sais, avoir un comportement d'évitement.
Mais c'est ça, l'évitement, c'est comme le but, c'est d'éviter de ressentir au final. Puis ça peut être par des actions où tu vas te soustraire, là, comme tu as dit, comme ben, t'en aller, pas le faire. Mais ça peut être aussi par la surcompensation, comme tu parlais tantôt. Parce que au final, en surcompensant, en disant ben j'ai tellement étudié, ben t'arrives à éviter de te connecter avec ta peur de l'échec.
Ah, mon Dieu, tellement. Puis je me reconnais tellement dans ce que tu dis, parce que c'est vrai, j'avais comme les deux comportements. Soit que j'évitais. Là, par exemple, je retournais à la maison, puis j'étais contente. Yeah, je fais pas l'examen de maths. Mais ça restait là, là, dans ma tête, là. Ouais. Tu sais, il va falloir que je le refasse quand même, cet examen-là. Fait que sur c'est le temporaire. Coup, c'est tellement temporaire. C'est que t'as un soulagement sur le coup. Ah, ça me fait du bien. Mais après ça, de ce que j'ai remarqué, moi, de mon expérience, c'est que quand je devais refaire l'examen ou refaire la situation qui était anxiogène, c'était comme 10 fois pire pour moi.
Oui.
Parce que j'évitais, je repoussais, je ruminais, je stressais. Puis là, c'était encore pire.
Le mammouth, il devenait de plus en plus gros au final.
Au final, puis c'est ça. C'est comme, tu mets temporairement pause sur la situation stressante, mais tu sais que tu vas devoir la revivre. Puis quand tu la revis, ben de mon côté, moi, je trouvais ça pire de revivre ça.
Ouais. Oui. Ben, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'on avait fait, Charlotte et moi, des recherches un peu sur comment ça pouvait se manifester, l'anxiété de performance. Puis il y a l'Université de Sherbrooke là, qui présentait un dossier super intéressant. Puis il mentionnait justement que ça pouvait se passer au niveau des pensées. Donc, ce que tu disais tantôt de la rumination, en fait, c'est le fait de se dire des pensées qui deviennent de façon un peu répétitive, là, qui sont envahissantes.
Oui, comme par exemple, je vais couper mon examen, je suis pas bonne, je suis pas à la hauteur, ça vaut pas la peine, le mal est déjà fait.
Oui.
J'en dis beaucoup.
Oui. Hey, clairement, il y a dans les émotions aussi, comme tu nommais tantôt, tu sais, la peur, le stress, le malaise, même des... je pense que tu as nommé tantôt que tu pouvais faire des crises d'anxiété aussi. Mm-hmm. Donc, des crises de panique, des choses comme ça, ça peut prendre cette ampleur-là aussi. Mm-hmm. Il y avait aussi, en fait, dans les comportements, tu sais, comme on a nommé tantôt, justement, d'avoir des comportements d'évitement. Puis aussi, il y avait dans les symptômes physiologiques, là, comme tu nommais tout à l'heure, au niveau des fois de la digestion, du sommeil, des maux de tête, des tensions.
Ouais, des tensions musculaires.
On voulait le dire, celui-là.
Puis tu sais, souvent, ce qui est remarqué, c'est que ça a toujours un lien avec des dates d'évaluation précises ou des contextes d'évaluation précises. Donc, il y a comme un moment précis où ça se présente, tu sais.
Mm-hmm. Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, je me suis comme rendu compte que pendant l'année scolaire, tu sais, mettons, pendant secondaire, t'es à l'école pendant environ 10 mois, là. Là, mon anxiété de performance était... mon anxiété était hyper élevée. Quand on arrivait à l'été, j'avais plus de maux de cœur, j'étais plus malade, ça allait bien, mon anxiété, il y en avait plus. Puis quand je recommençais l'école, ben là, ça se manifestait à ce moment-là. C'est très, très fort, là.
Puis, tu sais, je t'entends parler, puis tu t'en parles des fois de tes symptômes en parlant au passé.
Mm-hmm.
Fait que là, ça semble avoir évolué pour toi.
Ouais.
Fait que là, maintenant, comment tu vis ça en ce moment, là, ton anxiété de performance?
C'est sûr que le fait qu'on ait enlevé l'aspect d'évaluation académique, qui était comme vraiment la source là, de mon anxiété de performance, ça a énormément réduit mon anxiété. Puis j'ai même pensé un peu là, pendant un bout de temps que c'était terminé, là, que moi, j'avais plus d'anxiété, c'est terminé. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'anxiété de performance est toujours présente, puis elle va juste se manifester, tu sais, de différentes façons. Donc c'est sûr que d'enlever l'aspect académique, mes symptômes physiques, comme je vous disais, là, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Là, ça m'arrive plus là, d'être malade là, à cause de ça. Par contre, c'est sûr que ça se manifeste un petit peu plus dans mon milieu professionnel, parce que il va y avoir différentes situations où est-ce que tu vas être un peu mis comme en évaluation d'une certaine façon, là. Tu sais, par exemple, moi, dans l'emploi que je fais, j'accueille des étudiants, donc il faut que je prépare une présentation, comme une présentation, c'est ça, d'accueil, que je fais avec un de mes collègues que ça fait peut-être 50 fois, lui, qui fait cette présentation-là. Donc, ben là, je le sens que mon anxiété de performance revient. Je sais que telle date, je vais devoir faire la présentation, donc là... je vais être dans une préparation qui est un peu excessive, là. T'sais, je vais aller relire mes PowerPoints, puis je vais me pratiquer, puis ça va encore se manifester, mais je pense que le fait de vieillir, puis de comme prendre un peu comme de l'expérience, de l'assurance, mais ça fait en sorte que ça se manifeste beaucoup moins fort maintenant. mais c'est toujours là, toujours présent là.
Est-ce que tu as l'impression que tu la gères différemment aussi depuis que tu as... Ben, peut-être avec la maturité, comme tu dis, mais aussi depuis que tu as identifié que c'était ça. Et...
Mon Dieu, oui, tellement là.
Ouais.
Ben, juste le fait de mettre des mots sur qu'est-ce que je vivais depuis tellement d'années... Ça m'a permis de faire des recherches sur l'anxiété de performance, lire sur ce sujet-là. Puis justement, Sonia Lupien, je l'ai découverte puis je l'ai beaucoup, beaucoup appréciée parce que je trouve qu'elle vulgarise bien tout ce qui touche à l'anxiété. Donc, j'ai lu des livres qu'elle a écrits par amour du stress. J'ai fait des recherches. Donc ça me permettait de comprendre d'où ça part, en fait, l'anxiété. Qu'est-ce que c'est réellement? Puis mieux comprendre comment que moi, je fonctionne.
Puis un coup que tu as compris de où ça part, est-ce qu'il y a des habitudes ou des stratégies que tu mets en place au day-to-day pour un peu, peut-être pas au day-to-day, mais comme quotidiennement pour gérer ça?
Ouais. Ben qu'est-ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que... tu sais, avec le temps, c'est que les situations, ils se répètent. Donc, c'est plus des premières fois. Tu sais, dans le sens que des présentations à des groupes, j'en ai fait là, beaucoup, là, que ça soit à l'école ou dans mes emplois. Tu sais, je me dis, Léa, t'es déjà passée par là. Tu l'as déjà fait, tu l'as déjà vécu, cette situation-là, des dizaines de fois. Donc, à un moment donné, ça va pas non plus être complètement différent. Donc, le fait que ça soit plus de la nouveauté, c'est ça, je vous dis, tu sais, le fait de vieillir, c'est que tu vis plus d'expérience. Donc, il y a plus... C'est plus de nouveau pour toi, là. Donc, tu peux... un peu savoir à quoi t'attendre, c'est moins imprévisible un peu ce qui se passe, donc souvent je m'arrête puis je fais juste me dire « Ok, Léa, tu l'as déjà vécu plusieurs fois cette situation-là, comment ça s'est passé les dernières fois? Ça s'est très bien passé, pourquoi ça serait différent? Ça va bien aller? » Puis souvent, ben c'est justement, ça se passe presque toujours bien, là.
Fait que c'est comme si tu as une conversation avec toi-même, hein?
Ouais.
C'est ça, tu te parles, puis tu t'adresses à ton anxiété.
Exactement, c'est ça, je me parle beaucoup... à mon moi intérieur, là.
Ben oui. Puis on dirait que j'ai envie de te demander, tu sais, maintenant, tu sais comment t'adresser à toi puis à ton anxiété quand t'as envie, quand qu'elle se présente, puis tu sais, qu'est-ce que t'aurais voulu dire à la petite Léa? Tu disais que t'avais commencé à faire ça à 11 ans tout à l'heure?
À 12 ans.
À 12 ans, ouais. Qu'est-ce que t'aurais voulu dire à la petite Léa?
De moins être dans... essayer de performer à tout prix, mais plus d'être dans l'apprentissage. Tu sais, c'est ça, comme je disais au début, c'est pas grave, là, si t'as pas des 90%. Juste, sois dans le moment présent, écoute qu'est-ce qui se passe, apprends, puis être moins dans le par cœur, puis dans me bourrer le crâne d'informations, puis tout vomir sur ma feuille quand j'arrive à l'examen. Tu sais, être plus dans le moment présent, dans qu'est-ce que je peux apprendre des situations, de l'école. C'est sûr que je lui dirais ça. Fait que de me faire confiance, puis de tu sais, que je suis capable, puis que j'ai les compétences pour le faire.
T'as tout ce qu'il faut, puis je trouve que qu'est-ce qui est intéressant dans ce que tu dis, t'sais, puis ça peut avoir l'air cliché, là, qu'est-ce que je vais dire, mais tu sais, des fois, je me dis, si ton objectif, c'est d'apprendre, tu vas jamais échouer.
C'est ça, oui!
C'est parce que, comme, tu vas toujours apprendre quelque chose, t'sais, puis ça, c'est un mindset, des fois, qui est difficile à mettre en place, puis tu sais, mais en même temps, c'est ça, des fois, quand on se donne ce changement-là de perspective, puis de se dire, mais au final, peut-être que j'ai pas réussi comme je voulais, mais qu'est-ce que j'apprends de tout ça? Il y a une réussite, tu sais.
C'est ça aussi que j'ai vraiment mis en place quand j'ai commencé la maîtrise. J'ai vraiment commencé là, avec ce mindset-là. Je me suis dit, là, je suis juste là pour apprendre. Pour la première fois dans ta vie, tu vas aller à l'école, puis tu vas juste apprendre. Tu regardes pas tes résultats. Tu sais, avant, je sautais là, sur l'application, là, sur le portail étudiant, là, pour aller voir mes notes, là, puis ça pouvait me rendre là, hyper, hyper heureuse, comme ça pouvait me mettre à terre pendant des jours, là. Je me suis dit, tu fais juste être dans l'apprentissage, puis ça a vraiment bien fonctionné.
Oui. Puis c'est le fun parce que tu nous parles un peu, tu sais, c'est comme si ta vision un peu des études comme s'est transformée.
Oui.
Puis, tu sais, notre podcast s'appelle « La carrière autrement ». Fait tu sais, avec toutes les prises de conscience que tu as faites sur l'anxiété de performance, puis tout ça, tu sais, est-ce que tu as l'impression que ça t'a amené à percevoir aussi, tu sais, autant le monde étudiant que la carrière d'une façon différente, dans le fond autrement.
Oui, absolument. Ben, c'est sûr que j'ai essayé de transposer cette façon de penser-là que j'ai eue à la maîtrise dans mon milieu de travail. Donc, tu sais, de voir le milieu de travail comme un espace où est-ce que je peux en faire des erreurs, là. Tu sais, il y a moins l'aspect un peu d'échec. De mon côté, moi, c'est comme ça que je le vois. Que dans le milieu professionnel, t'as pas un examen à faire puis que tu dois le réussir puis tu passes ou tu passes pas, là. Tu sais, c'est un milieu comme plus d'apprentissage, c'est là que tu peux faire des erreurs, te reprendre. Donc, c'est sûr que je le voyais d'une façon où est-ce que j'ai plus de liberté, dans le fond, dans ma vie professionnelle. Donc, c'est sûr que ça m'enlevait une pression. En fait, ça m'enlève une pression de performer là, à tout prix. Fait que je le vois, c'est ça, je vois le milieu professionnel plus comme une place où est-ce que je peux apprendre, puis où est-ce que les erreurs, ben, ils ont comme moins d'impact que quand j'avais un examen à faire, par exemple.
Mm-hmm. Comment tu t'en es rendu compte?
Je dirais que c'est vraiment plus quand je suis arrivée à l'université, puis j'ai eu un cours de psychopathologie, puis on parlait de... Ben, il parlait de l'anxiété, des différents types d'anxiété, comment ça se manifeste. Puis là, moi, je lisais les manifestations. J'ai fait « Wow, OK, je réponds à absolument tous les critères de l'anxiété de performance. » Et fait que c'est là que j'ai comme commencé à me dire « Ah, ben, peut-être que j'en fais, je sais pas, c'est peut-être ça. » Puis ensuite, à ma deuxième année d'université, à l'automne, ça a été une période vraiment très, très difficile niveau anxiété pour moi. J'étais dans un cours que, justement, je sentais que j'avais moins les compétences. Et ça me rendait complètement dysfonctionnelle. Tu sais, les manifestations physiques, psychologiques étaient très, très... Tu sais, c'est tellement intense que c'est un peu disproportionné. Tu sais, ça m'empêche de fonctionner, mais c'est tellement gros, là. C'est ça. Puis à ce moment-là, ben j'ai consulté mon médecin parce que je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Puis j'ai consulté aussi une psychologue dans une clinique d'anxiété.
Okay.
Donc, c'est vraiment une psychologue qui est plus spécialisée dans les troubles anxieux. Puis c'est là que, bon, j'ai compris que c'était de l'anxiété de performance que je faisais.
Ça t'a confirmé. Là.
Ça m'a confirmé ce que je pensais déjà, mais tu sais, de l'entendre de la bouche de deux professionnels de la santé, je me suis dit, OK, ouais, c'est vraiment ça que je fais, ben, que j'ai fait depuis l'âge de 12 ans, puis que je fais toujours présentement. Fait que ça a été quand même long avant qu'on mette les mots sur qu'est-ce que c'était. Ouais.
Puis après ça, est-ce que tu as poursuivi un processus avec la psychologue?
Oui, absolument. Ouais. Dans le fond, après ça, c'est ça, dans cette passe-là qui était plus difficile, j'allais voir ma psychologue presque à chaque semaine. Puis avec le médecin, on a convenu d'essayer un antidépresseur, mais qui agit aussi, dans le fond, sur les symptômes d'anxiété. Donc, j'ai commencé à prendre, des médicaments. Ça m'a beaucoup aidée, tu sais, ça m'a donné comme le petit coup de pouce que j'avais besoin pour calmer un peu mes pensées négatives, ma rumination, mon évitement. Ça m'a juste donné comme un petit plus là, pour me sentir mieux. Puis j'avoue encore à ce jour, là, ma psychologue est vraiment exceptionnelle, puis elle m'aide vraiment beaucoup.
Ben, merci vraiment beaucoup de nous partager tout ça, Léa. C'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on pourrait aussi dire que il y a probablement autant de façons de gérer son stress puis son anxiété qu'il existe d'humains qui vivent le stress et l'anxiété. Tu sais, chaque personne a des manières aussi qui leur est propre. Puis, tu sais, des fois, c'est d'essayer puis de voir, ben, tu sais, faisons plus de ce qui nous fait du bien.
Oui,
tu sais.
Tellement. C'est ce fait d'être auto-observateur de ce qui marche moins. Là, puis, tu l'as fait, hein,
Léa? Ben oui, c'est sûr, parce que j'ai quand même, tu sais, ça fait comme plus de 10 ans là, que je vis avec cette anxiété-là. Donc, j'en ai essayé des choses, là, puis des moyens. Puis c'est sûr que maintenant, je sais qu'est-ce qui m'apaise. C'est que ça soit quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est de faire de la relaxation musculaire guidée.
Ouais,
donc juste de... Je mets mes écouteurs, puis c'est 20 minutes. C'est une vidéo sur YouTube qui dit... dans le fond, tu suis, là, qu'est-ce qu'elle dit. Donc, serrer les bras, serrer les poings, plier les bras. Fait que tu suis qu'est-ce que la relaxation a dit, puis ça te permet vraiment de vider un peu ton cerveau, puis ça marche à chaque fois. Puis je la fais même avec mon chum des fois, puis c'est vraiment notre façon de...
Ouais.
Fait qu'on est stressé, là, de s'endormir, on met la relaxation, puis on s'endort super rapidement, là. Ça permet d'arrêter les idées, la rumination, là, dans le fond.
Oui, j'aime vraiment ça que tu nommes que tu fais ça avec ton chum.
Ouais.
Parce que ça aussi, tu sais, de partager notre ressenti... puis surtout à une personne qui peut bien le recevoir puis qui va le recevoir sans jugement, ça aussi c'est une bonne stratégie pour certains, comme Eliane disait, ça peut marcher, peut marcher, mais je pense que
oui. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup aussi. Je me confiais énormément à ma mère, qui a vraiment une très, très bonne écoute, puis qui est capable de bien me conseiller. Donc, souvent, je faisais juste l'appeler, puis on parlait pendant 30 minutes. Je me vidais le cœur, puis ça me faisait tellement du bien après. Ou je le faisais avec mon chum, qui est quelqu'un de plus rationnel. Fait que des fois, il me ramenait plus, c'est ça, comme dans le moment présent, dans les faits, dans qu'est-ce qui est contrôlable. Ça, ça m'enlevait beaucoup, beaucoup d'anxiété, là. Donc, juste de l'extérioriser, d'en parler, là.
Ben oui, puis choisir ses auditeurs en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin. Est-ce que là, j'ai juste besoin d'aller me faire écouter, puis là, ta maman, elle s'en va bien jouer ce rôle-là. Ou sinon, je suis plus dans un mode comme, OK, là, je passe en résolution, action, résolution de problème, puis là, ton chum peut venir t'aider avec ça.
Oui, absolument. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est d'écrire. J'ai jamais été quelqu'un qui... Tu sais, qui était vraiment forte comme sur l'écriture, là. Mais c'était ma psychologue qui m'avait proposé ça à un moment donné, tu sais, de juste écrire dans un cahier n'importe quoi, peu importe ce qui me venait à la tête, de tout comme mettre
sur... Vomir ça.
Oui, c'est ça. C'est une feuille de papier. Ouais. Je me défoulais, puis j'écrivais comme plein d'affaires, puis c'était vraiment laid, puis comme... Mais c'est pas grave.
C'est tellement correct,
ouais. Ça me faisait... tellement du bien juste de l'écrire, là, puis j'ai encore ce cahier-là, puis ça m'arrive des fois de tomber dessus, puis de l'ouvrir, puis de lire.
Ah, je ouais, hein?
Waouh! J'en avais des choses à dire!
C'est ça. Ouais. Moi aussi, je pratique ça, puis je trouve que ça fait du bien aussi de voir, hey, j'ai parcouru tout ce chemin depuis que j'ai écrit ça il y a un an,
même mettons. Chose pour moi, ouais. Ah, des fois, je relis ça, puis je me dis, ouh! Tu sais, j'en vivais des affaires, là, comme... Puis tu sais, quand on est dans le moment, puis qu'on le vit, on n'a pas le recul, là. Tu sais, c'est comme si on est face à un mur, là, tu sais.
Ouais. Des fois, j'ai l'expérience aussi que quand je relis des choses passées, j'ai comme plus facilement de l'autocompassion envers moi du passé. Oui. Puis là, ça me dit comme, je peux-tu appliquer ça avec le moi du présent aussi?
C'est tellement intéressant. Ou, tu sais, parce que tantôt, tu parlais d'autocompassion, puis, tu sais, je pense qu'une façon des fois aussi de simplifier, c'est de se dire, mais comment je réagirais si quelqu'un que j'aime autour de moi me confierait tout ce que moi je vis, tu sais? Puis on se rend compte que c'est à des mille et des mille, là, comment qu'on réagit par rapport aux autres versus par rapport à nous-mêmes. Là, on est tellement souvent dans l'autocritique. Puis des fois, je trouve que quand tu te relis tout ce que tu as dit, c'est ça. Il y a comme une autocompassion qui vient, puis de dire, ouh! Tu sais, si quelqu'un que j'aime écrirait ça, puis je lirais ça, je me dirais, voyons, viens que je te serre dans mes bras, tu sais.
Ouais. Fait que ça, c'est des petits trucs un peu que j'ai développés avec les années, puis qui m'ont beaucoup aidé. Puis, tu sais, comme je vous disais tantôt, de me rappeler que j'ai déjà vécu ce genre de situation-là, donc c'est pas de la nouveauté. Parce que, comme j'avais appris, en fait, là, comment ça s'appelle? Le ciné, là?
Oui, le Sonia Lupien aussi.
On peut expliquer c'est quoi le ciné, là? Dans le fond, c'est comme une abréviation pour se rappeler des facteurs... qui viennent provoquer le stress. Là, je vais avoir besoin de votre aide, là, mais le C, c'est contrôle, je pense.
Oui, c'est le sentiment de contrôle. Donc, moins tu as de sentiment de contrôle sur la situation, plus le stress ou l'anxiété peut monter.
Le I, c'est l'imprévisibilité.
Oui.
Le N, c'est la nouveauté, que tu en as parlé tantôt.
Oui.
Puis le E, accent aigu.
Ouais. C'est l'ego menacé. Oui.
Fait que c'est quelque chose qui pourrait intenter ton estime de toi-même ou, tu sais, comme avoir un impact négatif sur ta perception de toi. Donc, ça aussi, ça peut augmenter le stress, l'anxiété.
Oui. J'avais déjà entendu parler aussi quelqu'un qui s'était fait. Parce que là, tu disais, je sais c'est quoi les stratégies qui marchent avec moi. Puis j'ai déjà vécu ça. Puis quelqu'un qui s'était écrit ces stratégies qui fonctionnaient bien. Comme ça, quand que tu as un peu le red flag de comme, OK, là, j'ai comme un amorce de crise d'anxiété ou ça va pas, ben tu sais, c'est écrit, puis là, t'es comme, OK, je pourrais aller prendre une marche, je pourrais faire l'exercice de relaxation, je pourrais écrire, puis là, tu choisis là-dedans la stratégie que tu as envie d'employer, là.
Oui. Ben oui, c'est vrai, c'est une bonne idée.
Ça donne le goût de le faire.
Toutes sortes, oui, c'est ça. Hey, oui! Puis, tu sais, en tout cas, pour moi, mais je pense que Charlotte aussi, tu sais, cet épisode-là, ça faisait un petit bout là, qu'on tentait de l'enregistrer. Puis, en tout cas, personnellement, j'avais vraiment hâte parce que, personnellement, ça venait me toucher parce que j'ai déjà ressenti, évidemment, de l'anxiété de performance aussi. Puis de t'entendre en parler avec autant de... Tu sais, d'authenticité, ça m'a vraiment touchée. Fait que moi je te remercie beaucoup.
Merci tellement, là, vraiment.